France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Les régions et les départements prennent de plus en plus en compte la gestion de l'eau. Voyez, on rejoint aussi les problématiques de la COP28. Au-delà de la consommation, c'est bien la régulation des cours d'eau qui est en question. C'est sur ce point de départ qu'est née une maison régionale de l'eau, dont le siège est à Barjols dans le Var. Une création qui avait bien anticipé sur ce réchauffement climatique. Nous allons nous y rendre tout de suite. On parle beaucoup actuellement du mentorat dont les jeunes, à commencer par ceux des quartiers prioritaires, pourraient profiter dans un avenir proche. Cet accompagnement est d'autant plus utile que les étudiants sont encore désorientés dans cette période de crise. Parmi les solutions proposées, la plateforme demain.org que nous présenterons dans la deuxième séquence de ces carnets.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Karine Viciana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de la Maison Régionale de l'Eau. Ça y est, vous venez de fêter vos 30 ans. Vous êtes à Barjols et c'est un centre de ressources unique dans le genre et d'études sur l'eau et les milieux aquatiques qui avait été voulu par des universitaires dans les années 80.
Tout à fait. La Maison Régionale de l'Eau émane de la volonté d'universitaires de vulgariser un peu tous les savoirs sur les milieux aquatiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les rendre assez accessibles au plus grand nombre.
Toutes les missions de la Maison Régionale de l'Eau sont d'informer, de sensibiliser, d'éduquer, de former, de mesurer, de modéliser, mais aussi peut-être d'agir non concrètement sur le terrain.
Notre mission première, c'est effectivement de développer et d'enrichir les savoirs sur les milieux aquatiques à travers toutes ces études, ces modélisations que l'on réalise au quotidien, mais surtout de démocratiser les connaissances pour les rendre accessibles au plus grand nombre et pour que chaque citoyen puisse agir sur son territoire.
Oui, parce que quand la maison voit le jour en 1991, grâce au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Conseil départemental du Var, l'idée effectivement de promouvoir une éducation à l'eau, mais là on anticipait énormément sur ce qui s'avère être un bien précieux et en même temps un bien qui peut avoir des effets dévastateurs. On le voit avec les crues récurrentes, surtout chez vous, il y en a régulièrement. Quels sont vos pouvoirs justement en dehors de l'information? Est-ce qu'il y a eu des mises en pratique, des tentatives de réguler ces catastrophes naturelles provoquées par les crues, entre autres?
Alors, à la Maison Régionale de l'Eau, on travaille sur deux axes, sur les extrêmes méditerranéens, parce que la région méditerranéenne, par rapport à l'eau, c'est travailler sur les extrêmes. C'est avoir trop d'eau ou n'avoir pas assez d'eau.
Oui.
Et dans les deux cadres, donc, on réalise des études sur les crues, c'est des études de restauration morphologique, des études pour savoir comment la rivière peut fonctionner au mieux et lui redonner des espaces de liberté, lui redonner des zones de débord, parce que les crues font partie du cycle naturel des cours d'eau. On a tendance à l'oublier. Et à l'inverse, quand il n'y a pas assez d'eau, c'est que effectivement, on vit des époques l'été où nos rivières et certains tronçons de nos cours d'eau sont complètement à sec. Et là aussi, on étudie les milieux pour savoir justement comment peut fonctionner un écosystème aquatique avec des débits très très faibles et comment la biodiversité réagit. Ça, c'est le côté étude. Et derrière, on a aussi tout ce côté d'accompagnement des populations, d'accompagnement sur la culture du risque inondation, comment on peut diminuer sa vulnérabilité, comment on réapprend à vivre avec une rivière plutôt que de lutter contre la rivière. Et à l'opposé, quand il n'y a pas assez d'eau, comment on repartage une culture méditerranéenne de l'eau et comment on fait tous, on se met en ordre de marche pour faire des économies d'eau.
Alors pourquoi ce défaut de régulation de l'eau? Il y a plusieurs causes à cela. D'abord, c'est l'usage des terres avec le manque peut-être de réserves et de réservoirs d'eau. Et puis la gestion des forêts également.
Alors au niveau des cours d'eau, le cycle méditerranéen, c'est un cycle naturel avec trop d'eau, pas assez d'eau. Donc il y a une part qui est naturelle, mais il y a aussi une part aujourd'hui qui est anthropique, à savoir sur les débits très très faibles, les prélèvements ont un rôle majeur sur le peu de débit sur certains tronçons de rivière et sur également les inondations, hein, l'urbanisation, l'aménagement justement des bassins versants fait que le risque inondation est aujourd'hui accru sur certains territoires.
Ouais. C'est un gros budget, $1,2 million de budget annuel. Pour cause, la Maison régionale de l'eau sont 17 salariés permanents, 900 animations. Au bout de 30 ans, vous gardez toujours la même enveloppe et vous êtes toujours soutenu par les pouvoirs publics.
Alors, au bout de 30 ans, on a eu des années plus fastes que d'autres. Mmh. Aujourd'hui, on est assez fiers quand même d'avoir 60% de nos ressources qui sont de l'autofinancement par nos prestations, que ce soit des prestations, encore une fois, d'études, de diagnostics, d'inventaire, d'études d'impact, etc., ou des prestations pour développer justement la culture du risque inondation ou la culture méditerranéenne de l'eau sur les économies d'eau. On a quand même un partenaire qui est un partenaire fiable et constant depuis des années, qui est l'Agence de l'eau, donc qui nous finance sur beaucoup d'opérations.
Et puis alors, une particularité de la Maison régionale de l'eau, c'est de disposer d'une aquathèque. Autrement dit, vous pouvez télécharger gratuitement des documents, des informations, des données à base de données scientifiques et techniques sur tous les milieux aquatiques de la région. C'est vraiment bien. maisonrégionaledelleau.org pour l'adresse. Merci Karine.
Avec grand plaisir, merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Julien, correspondant des carnets, nous invite à nous intéresser aux initiatives portées par la commune du Val, au nord de Brignoles, 4300 habitants. En l'occurrence, le Val dispose d'un service d'écomobilité qui s'appelle En voiture Simone. Alors, s'ils n'ont fait sourire, les services sont sérieux, comme le transport à la demande est gratuit pour les personnes âgées, qui plus est en voiture électrique. Par ailleurs, En voiture Simone est une alternative aux auto-écoles traditionnelles avec des cours de code de la route en ligne qui permettent de réviser les fondamentaux avant d'attaquer la conduite via une tablette, un ordinateur ou un téléphone. Ces cours sont accessibles partout en France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis ensuite, il y a les cours de conduite avec des moniteurs diplômés d'État qui permettent de prétendre à l'obtention d'un permis de conduire pour le prix de 749 €. J'ai vérifié selon une étude UFC Que choisir, le prix moyen du permis de conduire en France est de 1 804 €. Enfin, dans la même commune du Val, il y a un potager communal qui a été développé par Potager et Compagnie, une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui crée des potagers communaux ou d'entreprises. Et elle forme aussi à l'agroécologie et à la permaculture depuis son domaine de la ferme Saint-Georges. Vous allez trouver des liens avec Potager, ça s'écrit au pluriel, Potager et Compagnie, ainsi qu'avec En voiture Simone à nos pages d'émission. Benjamin Blavier, bonjour.
Bonjour.
Je devrais dire rebonjour Benjamin, parce que nous avions parlé d'une association que vous aviez fondée auparavant, Passeport Avenir, pour accompagner les jeunes des quartiers populaires dans leur parcours social, professionnel et scolaire. Aujourd'hui, vous co-présidez l'association Article 1, si je ne m'abuse.
Oui.
Nous naissons libres et égaux en droit, mais la réalité dit parfois le contraire.
La réalité dit cruellement le contraire, en fonction de votre lieu de naissance, de la fortune de vos parents, de votre genre, de votre couleur de peau. L'accès aux études, et donc souvent l'accès à l'emploi, n'est pas le même, ne se fait pas dans les mêmes conditions.
Alors vous avez été missionné par le gouvernement pour révolutionner, je cite, les codes du mentorat en France. Il faudrait peut-être donner quelques mots au sujet du mentorat entre les mentors et les mentorés. Qui sont-ils aujourd'hui? On en voit l'exercice avec les bénéfices, mais pas suffisamment.
Oui, c'est un vieux sujet. Nous faisons ça donc avec Passeport Avenir puis Article 1 depuis une bonne quinzaine d'années, le mentorat. Et effectivement, le gouvernement a lancé un appel à projet en disant qu'il fallait booster les politiques de mentorat. Nous, on en est très contents parce que ça fait longtemps que l'on pousse pour cette initiative. En fait, on est convaincus et on a de la mesure d'impact qui va dans ce sens-là que un jeune accompagné en mentorat, le fait d'être accompagné par un mentor qualifié pour ce faire, ça peut être déterminant.
Benjamin, on part d'une base qui est celle du volontariat, tant pour les mentors que les mentorés.
Oui, tout à fait, oui, c'est une relation bénévoles, non professionnels. Voilà, les mentors ne sont pas des pros. Ce sont des gens qui acceptent de passer du temps sur une mission d'accompagnement de durée qui peut osciller entre 3 mois et 5 ans, donc c'est extrêmement variable. Et ce sont effectivement des bénévoles qui acceptent de passer du temps. Ils sont un peu formés pour ce faire par des associations comme nous, et qui sont ensuite mis en relation avec des jeunes sur des besoins très précis, où ils vont pouvoir être immédiatement utiles pour aider un jeune à travailler sur son orientation, découvrir des métiers, renforcer son niveau dans les matières scolaires, se préparer à des entretiens, parler anglais, avoir du soutien moral, etc., etc.
Ouais, mais il faut préparer tout ce public, autant pour les mentors que les mentorés, en particulier les jeunes, qui ne connaissent pas nécessairement le principe du mentorat.
Non, bien sûr, ils ne connaissent pas nécessairement le principe du mentorat, et puis effectivement, nous, notre idée, c'est de rendre le mentorat accessible, de le démocratiser. Donc, on a lancé une plateforme, et cette plateforme, elle permet à un jeune d'exprimer un besoin très concret. Comme ça, c'est rassurant. Il va pouvoir dire, j'ai besoin de soutien scolaire, j'ai besoin de préparer un entretien, j'ai besoin de chercher une alternance, etc., etc. Et on va en face de lui connecter un volontaire qui a une petite expérience en la matière et qui est susceptible de l'aider.
Vous avez donc réalisé un algorithme qui permet de rapprocher à partir de critères bien précis les mentors et les mentorer les étudiants, alors les étudiants ça peut être aussi des collégiens, des lycéens, et les professionnels, et le tout est évidemment gratuit.
Oui, exactement, le tout est gratuit, et notre idée c'est de dire que tout le monde peut y accéder, c'est-à-dire que vous pouvez être étudiant, bachelier ayant fait un bac pro, un bac techno, un bac général, vous pouvez être dans une filière courte, une filière longue, vous pouvez être en train de chercher un job ou pas, vous pouvez avoir des bons ou des mauvais résultats, vous êtes en banlieue parisienne ou au fin fond d'une campagne ou un bassin désindustrialisé, ben vous pouvez vous connecter sur cette plateforme et exprimer un besoin. Donc c'est ouvert à tous, c'est extrêmement important. De même que c'est ouvert aussi à tous les profils de mentors, tous les profils de volontaires. Notre idée, c'est de sortir le mentorat aussi d'un registre où assez souvent, c'est quand même vu comme étant un truc réservé à des gens qui sont cadres sup, bien installés. Ben, je pense que un membre du COMEX, d'une entreprise du CAC 40, doit pouvoir devenir mentor d'un jeune qui veut faire des études en grande école, par exemple. Mais un cheminot doit aussi pouvoir devenir mentor d'un jeune qui s'intéresse au métier du transport. Et un horticulteur doit pouvoir devenir mentor d'un jeune qui est en bac pro horticulture et qui va chercher un stage, par exemple. Donc, notre idée, c'est de dire que tout le monde doit pouvoir en profiter. Il y a vraiment derrière ça une idée d'entraide, de solidarité. Et donc, chaque jeune doit pouvoir se dire que, quelque part, il y a quelqu'un qui sera prêt à passer un peu de temps, à lui donner de la confiance, à l'aider. Ça peut, des fois, être rien. Voilà, je vais juste relire ton CV, il y en a pour une demi-heure. Et ça peut aussi, des fois, changer des vies.
L'adresse uniquedemain.org, et au passage, je vous remercie de ce que vous réalisez depuis plusieurs années au nom de cette génération qui va conduire, qui va piloter le navire demain, et on a vraiment besoin d'eux. Merci beaucoup.
Tout à fait, et d'autant plus que c'est sûrement eux qui auront les solutions en tête, il faut juste qu'on leur fasse confiance.
Exactement. Merci beaucoup, Benjamin.
Merci à vous. Au revoir.
La semaine prochaine, nous serons sur les traces de la rédaction, aujourd'hui, en allant dans le Gard. Prochainement, la Nièvre, l'Allier, la Saône-et-Loire. Merci de nous écrire et nous informer des bonnes nouvelles du côté de ces départements. Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros, entre Casto.